FM.
News FM.
Bon après-midi. Il est 13h.
Ça part en live.
Parents live, la vie de famille en direct.
Vous avez envie de partager votre expérience de parents, grands-parents, beaux-parents, enfants ou ados sur un sujet qui vous tient à cœur, racontez-vous.
Sur Parents Live, on parle de la vie de famille, la vraie, celle qui tâche, qui fait du bruit, qui empêche de dormir ou qui claque les portes.
Rejoignez le direct Parents Live tous les deuxièmes mercredis du mois sur News FM.
Retrouvez les podcasts et l'ensemble des vidéos créées dans le cadre du projet Parents Live sur parentslive.fr.
Oui, Parents Live, 13h pile, si vous nous rejoignez sur News FM, les amis, comme tous les deuxièmes mercredis du mois, l'émission Parents Live. Qu'est-ce que c'est Parents Live ? Une émission consacrée à la parentalité, à toute forme de parentalité. Et on en parle toujours avec des sujets différents selon les émissions, selon le mois qui passe. Et toujours en compagnie de Florence. Ça va ?
Ouais, ça va super. Salut Greg.
Salut, tu vas bien ? On est bien ici, hein ?
Ouais, on est super. Il y a du soleil, il fait bon, il y a des copains.
Il fait bon, il y a des copains. Aujourd'hui, la thématique de ce Parents Live numéro 13 déjà, Flo, c'est concilier vie professionnelle, vie familiale et tout le reste. C'est la thématique donc de ce Parents Live numéro 13.
Et ouais, vaste programme.
Grave.
Du coup, ouais, en France, le projet d'avoir des enfants, le fait d'être parent, c'est encore très majoritaire. En 2014, donc avant la pandémie, avant la prise de conscience écologique, il y a une étude de l'INED qui indique que seulement 6,3% des hommes et 4,3% des femmes déclarent ne pas vouloir d'enfants. Et toutes ces personnes donc, qui ont des enfants travaillent. Et ce travail, ça occupe une place et du temps important dans la vie des parents. On va l'entendre tout au long de l'émission, notamment pour les pères. Ils travaillent moins souvent à temps partiel et prennent moins souvent de congés à l'arrivée de leurs enfants ou pour assurer leur garde dans les premières années. Et puis il y a aussi des chiffres qui sont marrants parce qu'une étude démontre qu'avoir des enfants, c'est un frein dans le développement de la vie professionnelle pour les femmes, tandis que les hommes qui ont des enfants, eux, gagnent mieux leur vie que ceux qui n'en ont pas. Et puis le travail, ça peut aussi avoir un impact négatif sur la vie de famille en générant du stress ou de manque de disponibilité. Et en tout cas, dans les couples hétérosexuels, le travail d'équilibriste est encore le plus souvent opéré par les femmes qui jonglent plus souvent entre vie de famille et vie professionnelle. Ce sont elles qui travaillent à temps partiel le plus souvent avec l'argument d'être disponibles pour leurs enfants. Et c'est dommage, mais elles sont 20% plus exposées que les hommes aux reproches de leur entourage quand leur travail impacte leur vie de famille. On mettra toutes les sources dans le descriptif de l'épisode.
Yes.
Le travail aussi, c'est en train de muter et les frontières entre le travail et la vie professionnelle et la sphère personnelle, elles bougent aussi avec la généralisation du temps de travail suite aux différents confinements.
Quand on parle d'équilibre vie pro et vie familiale, on retombe très vite sur la répartition genrée du travail. À ce sujet, vous pouvez écouter les épisodes 65 à 68 du podcast Les couilles sur la table, produit par Binge Audio qui développe largement le sujet. Pardon les enfants. Quelle place on accorde à notre travail, mais aussi à nos relations affectives et amoureuses, à nos loisirs quand on devient parent? Y a-t-il une différence entre la théorie, ce qu'on envisageait de faire, et la pratique, ce qu'on peut faire? Doit-on forcément faire des choix, faire une croix sur l'une ou sur l'autre de ces dimensions? Si oui, pourquoi? Sinon, comment fait-on?
Avec nous en studio pour répondre à toutes ces questions et sûrement à d'autres, on a Charlotte qui est étudiante en 4e année d'orthophonie, qui est en couple et qui est mère d'un petit garçon de 3 ans. On a également Stéphane, qui est accompagné de Narges et de Hamza, ses 2 enfants. Il en a aussi 2 autres. Donc il a 4 enfants en tout, de 11 ans à 10 mois. Il est jeune diplômé de responsable qualité, sécurité, environnement. Il est en couple et il est actuellement à la recherche d'un emploi. On entendra également les témoignages de Irénée, Méline, Mélissa, Khalil et Florent, que nous remercions pour leur participation. Donc tout au long de l'émission, on alternera entre des interviews et des audios, des interviews que j'ai pu faire en amont de l'émission.
Yes, carrément. Et du coup, pour attaquer la première partie de cette émission, on va parler de conciliation vie professionnelle et vie familiale, Flo.
Et on va commencer par écouter Irénée. Elle est mère de 2 enfants de 4 ans et 2 ans. Elle a repris le travail 4 jours par semaine en septembre 2020, après un congé parental à temps plein et choisi de 4 ans. Et on va l'entendre, elle a mis à profit ces années pour monter avec d'autres mamans un projet associatif qui s'appelle Work Like a Mum et qui est dédié à l'entraide parentale et à la sensibilisation des employeurs et du public à la conciliation vie professionnelle, vie familiale. On l'écoute.
Je me suis posé plein de questions sur comment concilier ma vie de famille et ma vie professionnelle. À la naissance de mon premier, j'avais une vie familiale et professionnelle complètement différente de celle que je vis aujourd'hui ici. J'habitais à Paris, que mon mari habitait à Grenoble. On a été un couple TGV pendant plusieurs années. Donc, j'étais responsable adjointe de la communication interne d'une entité du CAC 40, que je voyageais beaucoup. J'ai coordonné 15 pays. J'étais tous les mois dans des avions, dans des réunions. Donc, voilà, une vie professionnelle assez intense. Et on se demandait quelle pouvait être la place pour un enfant dans tout cela. Ma volonté était d'avoir des enfants et de leur donner tout le temps qu'ils méritent. J'ai fait le choix, mais accompagnée et soutenue par mon mari, de prendre un congé parental. Déjà parce que donc mon travail aurait été à Paris à l'époque. De faire des allers-retours Paris-Grenoble avec un bébé de quelques mois, c'était juste pas envisageable. J'ai commencé une nouvelle vie de maman à temps plein. Au fil des semaines et des mois, je me suis rendu compte du fait que c'était extrêmement difficile. Le changement radical que j'avais fait d'une vie professionnelle très active à une vie de maman au rythme de son bébé, dans une ville que je ne connaissais pas tellement, dans laquelle je n'avais aucun contact, aucun réseau. Et c'était, comme on dit, un grand moment de solitude. J'ai rencontré à l'époque plein de mamans autour de moi en allant pousser des portes de lieux de rencontre parents-enfants qui vivaient plus ou moins la même situation que moi, à temps plein auprès des enfants, abandonner une carrière qui est une partie, une composante importante de son identité. Et j'étais frappée des phrases comme ça que j'ai captées à droite à gauche. Une maman qui s'est présentée, elle a dit « J'étais architecte au passé et maintenant je suis maman ». Le fait de devenir maman lui aurait retiré ses diplômes, lui aurait retiré tout ce pour lequel elle s'était battue depuis ses études et tous les sacrifices qu'on fait pour avoir une vie professionnelle épanouie et tout. Et ça m'a travaillé. Et je me souviens très bien d'une réunion dans laquelle, à la Cité des Familles, on devait se présenter et dire si on était professionnel ou maman. Et ça m'avait franchement choquée. Pourquoi doit-on choisir si être professionnel ou maman? Donc voilà, je continuais mon congé parental, mais à côté, je me suis lancée donc dans des projets avec ce groupe de mamans qui est devenu un collectif de mamans qui s'est appelé Supermams le Lab, donc un laboratoire d'idées, d'intelligence collective. On mettait ensemble tous nos différents parcours et nos différentes envies et on a lancé des projets de soutien à la parentalité ou des projets pour essayer de faire changer la vision de la société, du monde du travail, de l'entreprise et la vision, en fait, c'est très important, de chacun en premier lieu vis-à-vis de la parentalité. Le mouvement Work Like a Mom en fait partie, c'est ce mouvement dans lequel, en fait, on s'est beaucoup entraîné dans le domaine à la fois personnel et parental, mais aussi professionnel. Quand on reste 4 ans à s'occuper que de ses enfants, on se demande si on est encore capable de faire ce qu'on faisait avant et qu'est-ce que ça va donner, etc. Et donc l'entraide passe aussi par relire un CV, s'entraider dans des faux entretiens d'embauche, ouvrir son carnet d'adresses, son réseau personnel et professionnel pour se soutenir, se garder mutuellement les enfants en cas de, par exemple, entretien, et aussi dans la prise de conscience qu'il y a une partie de nous qui était sous-exploitée, entre guillemets, avant de devenir parent. On trouve en soi des ressources, on trouve en soi des leviers. Vraiment, on développe un tas de compétences dont on ne se rend même pas compte, mais qui sont complètement transférables sur le milieu professionnel et qui sont une vraie force. Et il faut arrêter de penser à la parentalité comme une faiblesse vis-à-vis de son employabilité et de son efficacité professionnelle.
Donc voilà, tout l'enjeu de ce projet et tout le projet de Work Like a Mom et de Super Moms, le Lab, c'est de dire ça. Qu'à un moment donné, en tant que parent, même si on est en congé parental, on a des compétences professionnelles et on peut les mettre à profit. Et ensuite, que son expérience de parent peut être valorisée auprès d'un employeur. Par exemple, l'idée de ce collectif, c'est de créer un peu un super cerveau où chacune pouvait effectuer des micro-tâches en phase avec ses disponibilités, donc une promenade, passer un coup de fil, un temps de sieste, pouvoir rédiger des mails. Elle explique aussi qu'elle mettait en place des réunions avec des enfants où une maman se relayait pour surveiller les enfants, par exemple tous les quarts d'heure, pour que chacune puisse participer à la réunion. Et ce projet, ça a aussi été une façon pour ces mamans de vivre un congé parental tout en continuant à solliciter leurs compétences professionnelles et du coup à vivre plus sereinement cette pause On va les écouter juste sur ce point-là.
Ça nous a permis, pour beaucoup d'entre nous, de tenir, parce que c'est... Work Like a Mom est beaucoup aussi sur la prévention des risques psychosociaux liés à la maternité, à la parentalité au sens large, hein, parce que moi, très honnêtement, sans tout ce projet-là, je ne sais pas si j'aurais tenu 4 ans à m'occuper à 100% de mes enfants. De valoriser ses compétences professionnelles, même dans un contexte associatif, ça a été vraiment ce qui m'a sauvée, et je pense pour beaucoup de mamans dans le projet, c'était pareil.
Donc, on sent bien là, voilà, qu'une pause professionnelle, ça a aussi des conséquences sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, et que pouvoir continuer en fait à mettre en place ses compétences professionnelles, même en mettant en congé parental, c'est intéressant. Donc, depuis le confinement, ce projet, il est en suspens. Par contre, il rencontre de l'écho même à l'international. Donc, n'hésitez pas à contacter les Super Mums, si cette organisation, si ce projet vous intéresse, pour que vous puissiez peut-être repartir aussi sur un autre projet. Mais en tout cas, voilà, elle cherche à le faire évoluer et à rencontrer des nouvelles personnes justement pour le faire évoluer. Donc elles ont une page Facebook et vous pouvez aussi les contacter par mail à worklikeamom@gmail.com et on remettra tout ça dans le descriptif de l'épisode.
Carrément, pour que tout le monde puisse se retrouver. Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Alors Stéphane, en reconversion professionnelle, père de 4 enfants.
Oui.
Bienvenue, merci de participer à cette émission.
Merci.
Alors... Eh bien, pour vous, Stéphane, qu'est-ce que l'arrivée de vos enfants a changé dans votre perception de votre activité pro, dans l'importance aussi que vous lui accordiez ?
Eh bien, ça a déjà donné du sens à ce qu'on me disait quand j'étais petit, où on disait, quand tu as un enfant, ben, tu consacres tout à ton enfant. Je l'entendais, mais ça ne faisait pas vraiment écho jusqu'à ce que j'ai eu ma première fille, qui a aujourd'hui 11 ans. Et bien après ça, dès que j'ai eu un enfant, ben c'était tout consacré à cet enfant. Mmh. C'est-à-dire que ben, tu mets de côté ta vie professionnelle où tu vas simplement bosser pour avoir un gagne-pain. Quoi, pour, voilà, je me suis marié très jeune, à 25 ans. J'ai eu la petite tout de suite. Mmh. Donc ben, ça a mis un terme un peu à peut-être une envie professionnelle et ça m'a orienté à dire ben, voilà, tu vas bosser et tu te consacres à ta famille.
Mmh. Ça a été une volonté ou c'est venu tout seul
Enfin, ça s'est vécu.
Ça a pris la place, quoi.
Ouais, voilà, au fil de l'eau.
Yes. Ouais. Ok. Et quel choix, vous avez fait avec l'arrivée du premier enfant, avec l'arrivée de vos enfants ? Parce que plus de travail, moins, je sais
ben,
pas.
C'était tout de suite plus de travail. Et le temps disponible qui était avant, ben, peut-être pour soi, pour les amis, pour d'autres choses, ben, il s'est consacré à la famille. Donc c'était mettre de côté pas mal de choses personnelles pour passer du temps en famille, mais c'était aussi un peu du personnel, voilà, mais c'était pour son bien personnel à moi et à elle aussi.
D'accord. J'imagine il y a eu des contraintes peut-être auxquelles vous avez fait face. C'était quoi comme contraintes, qu'elles soient familiales, matérielles ou financières ou autres
Ouais, ben alors ben les trois, déjà familiales, parce que ma femme n'est pas forcément française, du coup ben, c'était de savoir, d'avoir... lui consacrer beaucoup de temps à elle pour qu'elle se sente au mieux. Matériel, ben, c'est parce que comme beaucoup de jeunes parents, on n'avait pas beaucoup de moyens, du coup on a dû se retrouver habiter dans des endroits pas forcément les plus agréables. Donc c'était savoir qu'est-ce qu'on fait pour eux, comment on le fait. Et financière, ben, c'est venu après. À un moment donné, je sais que je bossais 7 jours sur 7 pour pouvoir assurer la famille ou quoi, qu'ils se sentent au mieux. Donc c'était vraiment... Un sacrifice, mais voulu et choisi. Donc, c'était pas forcément lourd à porter. C'était ce que j'avais à faire.
C'était logique
pour
vous. Ouais. Du coup, satisfait de votre équilibre, pardon, entre temps de travail et temps de famille. Est-ce que...
Ben écoutez, comme l'a dit Florence, je viens de repasser des études. Du coup, je le retrouve, mon équilibre. Voilà, j'ai 37 ans. J'ai repris les études parce que à un moment donné. Donner tout pour les enfants, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour eux et pour nous. Faut pas s'oublier, parce que c'est pas ce qu'ils attendent. Ils attendent pas forcément ça de nous, je pense, les enfants, qu'on leur donne tout. Ils veulent que tu vives ta vie aussi, papa, fais-toi plaisir, parce que quand tu seras heureux, je serai heureux. Donc voilà, il faut réussir à trouver l'équilibre. Il est pas forcément totalement trouvé, mais voilà, je suis en chemin pour.
Yes.
Voilà.
Très bien. Merci Stéphane.
On va écouter à présent le témoignage de Mélissa et Florent. ils sont les parents d'une petite fille de 18 mois et ils sont chacun auto-entrepreneurs. Mélissa, elle est doula, donc c'est une accompagnante autour de la natalité, de la naissance et une accompagnante parentale aussi. Et Florent, il mixe des travaux informatiques et de l'accompagnement individuel et de groupe en communication non violente. Ils ont créé ensemble Présence Créative, c'est des solutions de soutien, d'écoute et d'accompagnement sur mesure pour les familles qui s'inspirent de la parentalité créative de Catherine Dumonteil-Crémer et de la communication non violente. Vous pouvez découvrir leur travail sur présencecreative.fr et il y aura aussi un petit bonus audio de leur activité dans le descriptif de l'épisode.
Je travaille 3 jours par semaine sur Présence Créative et le reste du temps, je suis avec ma famille. On a choisi que notre fille elle aille chez la nounou 3 jours et que le mercredi, on soit avec elle et que le vendredi, ce soit une journée où on est tous les trois, une journée dédiée à notre famille. Et après les week-ends, on fait nos activités, soit tous ensemble, soit indépendamment les uns des autres.
Enfin, pour nous, ce qui a du sens, c'est d'être en relation, en famille. C'est vraiment un choix de rythme de vie. Pour adapter un rythme de vie en travaillant sur 3 jours, la première chose sur laquelle on a bossé, c'est réduire les dépenses, quoi. Faire de la récup, trouver un logement avec un loyer pas cher, en continuant de manger le mieux possible. Partir en vacances dans un camion plutôt que ou en camping plutôt que de louer une résidence.
Ouais, je dirais aussi tout le côté seconde main. On a toutes nos dépenses matérielles, elles ont été vraiment limitées. Et puis on n'habite plus en ville, donc ça change beaucoup aussi notre mode de vie. Notre travail est en local, donc on n'a plus qu'un véhicule pour deux, donc on utilise beaucoup moins d'essence. C'est important pour moi d'avoir à la fois l'équilibre des 3 jours pour Présence Créative et le reste de la semaine avec ma famille. C'est là où je trouve un équilibre où je m'épanouis d'un côté et c'est mon espace, c'est ma créativité, c'est là où je me ressource aussi des fois parce que accompagner les parents, mais ça me donne une énergie de fou. Quand je ressors, je me dis waouh, je suis vraiment à ma place. Et en même temps, je vais après avoir des temps où je suis pleinement disponible pour être en lien avec ma famille. Et donc, c'est aujourd'hui, en tout cas, c'est important pour moi d'avoir les deux.
Voilà, donc ils ont pris beaucoup de temps à la naissance de leur petite fille, on l'entendra aussi. Et du coup, pour monter ces projets-là, pour pouvoir aussi pérenniser ce rythme de vie actuellement, ils piochent dans leurs économies. Et ils bénéficient aussi des minima sociaux et du soutien de leur famille, du coup, parce que faire un choix de vie plus cool, c'est aussi, comme ils l'ont dit, réduire les dépenses et du coup pouvoir vivre un peu autrement et avec d'autres besoins.
Yes, obligé, ouais. Il faut faire des choix, comme on dit. Charlotte, bonjour.
Bonjour.
Alors, bonjour Charlotte, vous êtes parent en études, étudiant, ouais. Parent, on le met dans le sens qu'on veut, mais en tout cas, c'est la réalité. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi, vous êtes étudiante en orthophonie, orthophonie. Et vous êtes maman d'un enfant de 3 ans, d'un petit garçon.
C'est ça.
Yes. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à assumer le désir d'enfant et le projet de reconversion et d'études dans le même temps?
Je crois qu'il a fallu une grosse dose d'optimisme et beaucoup de naïveté aussi au départ pour lancer les deux de front et en même temps. Parce que du coup, Marius, mon tio, est arrivé pendant ma première année d'études. Nous, c'est vrai qu'on avait vraiment l'idée de se dire qu'un enfant, l'arrivée d'un enfant n'allait pas changer grand-chose dans notre vie. On s'était dit, c'est petit, on l'emmène partout, il va s'adapter à notre mode de vie. Et puis, on se rend compte que ce n'est pas exactement ça les mois et les années passant. Moi, j'avais vraiment dans la tête aussi que en devenant maman, je ne serais pas seulement maman. J'avais besoin d'avoir un projet professionnel et de le mener à bien malgré tout. Et voilà.
D'accord. Comment vous vous organisez financièrement au niveau des modes de garde pour que ce soit possible d'étudier en même temps? D'être là en tant que maman, plus la première année, vous disiez qu'il arrivait la première année d'études, bim. Donc comment on s'organise?
Alors, un peu comme Florent et Mélissa, on réduit aussi pas mal nos dépenses. Moi, j'ai eu la chance aussi d'être, comme j'avais travaillé avant, d'être financée sur une partie de mes études. Après, j'ai bossé les étés. La première année, la deuxième année, j'ai fait un boulot à mi-temps en plus de mes études. Et faut savoir que mon conjoint était lui aussi en reconversion. Donc, il était aussi très pris de son côté. Il bossait aussi pas mal. Et donc, voilà, financièrement, on y arrive parce qu'on fait un petit peu moins de dépenses. Et puis, comme on bosse aussi beaucoup, finalement, voilà, on fait peut-être un petit peu moins de week-ends. Et matériellement, après, sur l'organisation, on a une chance énorme, c'est d'avoir nos quatre parents, donc les grands-parents de Marius, qui sont extrêmement présents, mais aussi très demandeurs, eux, de prendre part dans l'éducation de notre enfant. Et donc, c'est vrai qu'on se repose beaucoup sur eux pour faire garder notre petit, ouais, quand on a besoin de travailler, d'étudier, et voilà.
Ça diminue la charge émotionnelle aussi, parce que j'imagine que voilà, en reconversion, en études, les enfants, ça doit fuser là-haut, hein, ça doit.
Ouais, ouais, forcément.
Ça doit fatiguer.
Ouais.
qu'est-ce que l'université met en place pour accompagner ou faciliter la vie des étudiants parents? Est-ce qu'elle met des choses et quoi?
Alors, rien du tout. Il faut savoir.
Super, merci Charlotte, au revoir.
Non, il faut savoir que les étudiants parents, on n'a aucun statut en fait, légal quoi, qui est reconnu. Il y a plein de choses qui sont mises en place maintenant dans le monde du travail qui commencent. Et chez les étudiants, rien du tout. Moi, quand j'ai annoncé ma grossesse à la fac, on m'a dit vous n'avez qu'à prendre une année de césure, ou vous avez fait un choix, maintenant il faut l'assumer, c'est tant pis pour vous. Quoi.
D'accord.
Voilà, et on m'a proposé après de réduire certains temps de cours, mais ce n'était pas du tout adapté à mes besoins en fait. Moi j'aurais eu besoin certaines fois de finir plus tard, de commencer plus tard, pour les horaires de nounou, et ce n'était pas du tout possible.
Non. Pas agençable comme ça.
Voilà.
D'accord. Merci Charlotte.
Et du coup, je sais que tu as assisté à une petite conférence avant-hier, justement sur une expérience d'un comité de soutien aux étudiants parents à l'Université de Québec à Montréal. Est-ce que tu peux peut-être rapidement nous dire ce qu'eux, ils ont mis en place justement pour soutenir les parents? Ça existe depuis 2008, si je ne me trompe pas. Il y a encore beaucoup de travail, mais en tout cas, il y a un collectif d'étudiants qui se mobilisent pour soutenir les parents étudiants.
Oui. Bah déjà, ce qu'ils font, juste le fait de savoir que ça existe, ces lieux-là, et en tant que parent, étudiant, d'avoir des lieux comme ça de parole où on puisse être soutenu, écouté, c'est hyper important parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul. Et c'est vrai que je pense qu'il y a plein de mamans qui arrêtent les études parce qu'elles deviennent mamans et que c'est trop lourd à porter. Et après, il y a aussi, c'est aussi des soutiens financiers. Là, au Canada, ils ont mis en place des bourses pour aider les parents qui ne peuvent plus travailler à côté des études. Et voilà, souvent c'est compliqué au niveau financier.
Et une crèche aussi, hein, si
voilà,
je ne me trompe pas.
Et voilà, c'est ça. Aussi des places en crèche qui sont aussi à des tarifs plus bas, je crois, pour les parents étudiants.
Et la crèche est au sein de l'université, ouais, et ils espèrent développer du temps en soirée et pendant les week-ends.
Ouais, c'est ça.
D'accord, trop bien.
Ouais. Mmh.
Ouais, bien, bien, bien vu. Flo, oui.
Ouais.
Bah oui, je crois qu'on va écouter un autre témoignage.
Oui, c'est ça. On écoute Méline pour terminer cette première partie sur conciliation vie professionnelle et vie familiale. Méline, elle a 3 enfants de 18 mois, 3 ans et 5 ans. Elle combine une activité de directrice de crèche et d'indépendante autour du projet Ebularium. Ebularium, c'est un projet de création d'installations ludiques et artistiques pour les enfants de moins de 6 ans, mais aussi des formations aux professionnels et aux parents autour de la slow pédagogie. Donc la slow pédagogie, c'est une posture qui amène à repenser la qualité de nos relations avec les plus petits et l'aménagement de leur environnement de jeu. Donc vous pourrez retrouver son univers et ses propositions sur ebularium.fr, et un bonus sur la slow pédagogie et ce projet sera disponible en descriptif de l'épisode.
Je travaille à 60% en tant que directrice de crèche. J'ai fait le choix de concentrer mes activités, c'est-à-dire du lundi au mercredi d'être pleinement concentrée à mon activité de directrice de crèche, et du jeudi au vendredi de gérer mon activité d'indépendante. Voilà, ça me permettait de pas trop m'éparpiller, et donc mes enfants sont gardés du lundi au vendredi entre une personne à domicile, les grands-parents et les parents qui se répartissent du temps pour s'occuper d'eux. J'ai aussi fait le choix de partir très très tôt le matin. Mon gros volume d'heures que je fais sur la structure ne soit pas complètement sur les heures de réveil de mes enfants. Donc en fait, voilà, de partir vers 5h, 5h30 le matin me permet de remonter pas trop tard en fin d'après-midi et que mes enfants profitent de leur maman maximum à partir de 17h30 le soir, quoi. Encore une fois, c'est très très important pour moi d'arriver suffisamment tôt à la maison pour pas être dans juste les retrouvailles, le bain, le dîner et le coucher. J'ai vraiment à cœur d'avoir un temps de vraiment de jeu et de discussion avec mes enfants tous les jours. Donc vraiment voilà, d'être là entre 16h30 et 17h30, c'est vraiment le mot d'ordre que je me donne. Alors on a le système de garde à domicile depuis l'arrivée de notre deuxième enfant. Donc pour nous c'est vraiment vraiment l'idéal. C'est vraiment un choix d'organisation fluide. Quand j'arrive, les enfants sont déjà à la maison et du coup j'ai pas besoin d'aller les récupérer par-ci par-là. Ils sont voilà, les trois enfants sont déjà à la maison. Donc ça c'est vraiment une solution qu'on trouve vraiment très très confortable. À partir du deuxième enfant, et c'est encore plus vrai à partir du troisième enfant, ça nous coûte pas du tout plus cher que de mettre notre enfant en crèche. Donc voilà, je sais que la première année, ça nous a fait engager pas mal de frais, mais qu'on s'y est retrouvé à partir de la deuxième année grâce au crédit d'impôt, etc. C'est aussi le prix de la sérénité au quotidien. Comme on a essayé, dans la mesure du possible, de faire le choix dans nos deux vies professionnelles qu'on serait toujours là à deux, de 18h à 20h, quitte à ce qu'il y en ait un qui retravaille après 20h. Mon activité professionnelle prend une grosse place dans ma vie, déjà parce que je suis une passionnée vraiment par la petite enfance. Le fait d'être maman d'enfants en bas âge me sert aussi dans mon métier et mon métier me sert aussi dans ma vie de maman. Donc voilà, c'est assez dominant l'activité professionnelle et le sujet de la petite enfance dans ma vie au quotidien. L'arrivée des enfants ne m'a pas fait dire que je voulais réduire mon activité professionnelle. Je voulais l'aménager pour accorder beaucoup de temps à mes enfants, mais en tout cas je voulais pas lui donner une place secondaire. Donc il fallait que je trouve une organisation pour qu'elle garde toute cette valeur et que moi je me sente tout autant épanouie qu'avant à travers cette activité professionnelle. Je me sens vraiment satisfaite de l'équilibre entre temps de travail et vie de famille, même s'il faut rester vigilant effectivement à ce que le travail ne s'immisce pas trop à la maison. Mais globalement, j'estime vraiment accorder le temps que je souhaitais pour ma vie de famille. Et ça, c'était vraiment important pour moi de ne pas être chargée de culpabilité.
Donc la culpabilité, on y reviendra peut-être au fur et à mesure de l'émission, mais voilà, c'est souvent le travail prend de la place, mais on se dit qu'on n'est pas assez disponible pour les enfants, ou inversement, on aimerait plus développer son activité professionnelle et on veut avoir du temps aussi pour nos petits. Méline, on ne l'entend pas là, mais elle explique quand même que le prix de cette organisation, à savoir des journées qui commencent très tôt et qui finissent souvent tard, c'est une grande fatigue. Mais que pour elle, finalement, c'est le prix à payer pour l'assurance de temps plus serein pour chacun. Et puis, elle dit aussi que, qu'il y a le bénéfice du télétravail généralisé qui facilite quand même la conciliation vie professionnelle et vie familiale pour elle. Voilà. Et pas hésiter, quand on cherche des modes de garde, à réfléchir aussi, quand on commence à avoir plus de deux enfants, à la garde à domicile. C'est ce qu'elle explique. Pour elle, en tout cas, c'est une solution qui leur convient bien. Voilà.
Yes. Eh bien, on va peut-être faire une petite pause musicale.
Ouais, et je crois que c'est Hamza qui a la programmation, c'est ça ?
Exactement. Hamza, t'as choisi un son de qui à la programmation ?
De Soprano.
Ouais, exact. Et le titre, tu t'en souviens ou pas ?
Roule.
Exactement, exactement. Ben voilà, c'est lancé par Hamza. Et on écoute ça tout de suite, on revient juste après dans Parents Live 13.
Le jour sourire se lève, la vie reprend, faut remplir la gamelle, mais tout en souriant. Des proches appellent, ils prennent des nouvelles, mon sourire leur ment, rien n'est plus comme avant. Je fais semblant, au milieu des gens, je chante, je danse, mais quand arrive la nuit, ton absence et ton fou rire font trop de bruit, impossible de dormir. Donc je roule, 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 roule dans les rues de ma ville, larmes à l'œil, la boule au ventre, je refais le monde avec de si. Oui, je roule, 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 roule jusqu'au bout de la nuit. J'accélère, majeur en l'air, en insultant ta foutue maladie. À toi, on pleure parfois, on se demande pourquoi, mais ainsi va la vie. Au moins cette fois, ta douleur n'est plus là. Tu reposes en paix, on croit au paradis. Tu nous voulais fort, tu nous voulais heureux. Donc j'ai repris le sport, je fais de mon mieux. Mais la nuit, ton souvenir fait trop de bruit, impossible de dormir. Donc je roule, 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 roule dans les rues de ma ville. Larmes à l'œil, la boule au ventre, je refais le monde avec des si. Oui, je roule, 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 roule jusqu'au bout de la nuit. J'accélère, majeur en l'air, en insultant ta foutue maladie. Rien ne sera plus comme avant. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de dire au revoir. Oh, oh. Mais sur le quai de l'insomnie, la boule au ventre, je refais le monde avec des si. Oui, je roule, 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 roule jusqu'au bout de la nuit. J'accélère, majeur en l'air, en insultant ta foutue maladie. Oui, je roule, 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 roule dans les rues de ma ville. Larmes à l'œil, la boule au ventre, je refais le monde avec des si. Oui, je roule, roule.
Yes, on est de retour dans l'émission Parents Live, émission consacrée à la parentalité, numéro 13, avec la thématique du jour, comment concilier vie professionnelle et vie familiale, tout le reste, Flo. C'est la deuxième partie de cette émission, où cette fois-ci on va parler du temps avec ses enfants.
Exactement, donc en fait chaque génération passe de plus en plus de temps avec ses enfants que la précédente. Pour les enfants qui ont des parents de moins de 3 ans, les femmes, elles passent en moyenne 3 quarts de leur temps disponible avec leurs enfants, contre moins de 60% pour les pères. Et quand ceux-ci passent du temps avec leurs enfants, c'est souvent des temps seuls plus courts et plus fractionnés. Il y a aussi une étude de l'UNAF qui, en juin 2017, indique que 47% des pères déclarent ne pas avoir assez de temps pour faire ce qu'ils souhaitent avec leurs enfants. Voilà, bref, plus ne serait pas encore assez, mais dans tous les cas, ça évolue, ça change, ça bouge. On a Hamza et Narges avec nous en studio. Alors, je vais vous demander, les enfants, chacun votre tour, qu'est-ce que vous pensez, vous, du travail de vos parents? Et est-ce que vous trouvez que ça leur prend trop ou pas assez de temps?
Moi, je trouve que le travail de mon père, ça lui prend beaucoup de temps. Et celui de ma mère aussi.
Et du coup, toi, ça te fait quoi dans ta vie d'enfant que ce travail prenne beaucoup de temps?
On peut pas trop passer du temps ensemble. Voilà.
T'aimerais faire quoi avec eux, par exemple, que tu peux pas trop faire en ce moment?
Jouer avec eux.
Tac. Hamza, toi, t'en penses quoi de ce qu'elle dit, Narges ? Est-ce que c'est pareil pour toi ?
C'est juste que c'est la même chose, mais quelquefois, moi, je dis que c'est qu'on joue moins de la famille avec, et c'est tout, voilà.
Donc vous, c'est important de jouer avec vos parents et vous ne pouvez pas le faire assez parce qu'ils travaillent beaucoup.
Oui.
Mais des fois, vous n'êtes pas content qu'ils ne soient pas là quand même. Ça fait du bien, non, des fois qu'ils ne soient pas là, les parents. Allez, tu peux le dire, c'est pas grave.
Oui, pour faire des bêtises.
Voilà. On est tous pareils quand même. Oh. Vas-y, Flo.
Et, ouais, et oui, c'est à moi, hein, je crois.
Oui, oui, je crois, oui.
Donc, on va écouter Méline sur comment elle considère le temps qu'elle passe avec ses enfants.
Bah, la disponibilité du parent, pour moi, elle est vraiment précieuse. Pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait un vrai temps où on puisse être partenaire de jeu, ou en tout cas disponible aux questions qu'ils se posent dans leur jeu, dans leur exploration. Pour les enfants, c'est très apaisant de se dire qu'on n'est pas juste des électrons libres qui parachutent des ordres par-ci, par-là. Qu'on est aussi là pour être en relation avec eux, pour partager des expériences ensemble, pour qu'ils puissent nous raconter des choses. C'est de la vraie disponibilité et je ferai vraiment la différence entre présence et disponibilité. De temps en temps, avec mon mari, on s'autorise des petites piqûres de rappel où on s'est dit pareil, allez, dans le 18-20, on pose sur le placard nos téléphones et parce que sinon on est forcément tenté pour gérer une réponse à un mail ou en disant bah là c'est bon, il joue bien, je vais faire ça, mais en fait voilà, c'est... C'est plus périlleux d'une organisation où on ne se met pas 100% disponible à eux.
Yes, on a bien entendu son témoignage. Vous, Charlotte et Stéphane, comment vous qualifieriez votre temps passé avec vos enfants ? Assez, pas assez ? Est-ce que cela, ça correspond à vos besoins ?
Moi, je dirais pas assez. Après, en fait, c'est très, très hétérogène pendant l'année parce que moi, j'ai des périodes d'études qui sont très, très intenses, de septembre à mai. Et ensuite, j'ai presque 3 mois de vacances l'été. Donc, je rattrape beaucoup le temps, on va dire, à ces moments-là. Mais c'est vrai que pendant le reste de l'année, c'est clairement pas assez. Et puis maintenant, Marius est à l'âge aussi où il se rend compte qu'on est moins là et il le demande. Et voilà, c'est vrai que ça fait toujours un petit pincement au cœur quand il me dit « Maman, viens, on va jouer ». Et puis moi, je dois dire « Ben non, il faut que je révise ça pour demain, c'est pas possible ».
Ah ouais. Et vous, Stéphane ?
Eh ben, ouais, je dirais aussi des fois pas assez, on a parlé de culpabilité à un moment donné, j'ai entendu ce mot. Et dans le témoignage juste avant, la personne a parlé de présence et disponibilité, elle a fait une distinction entre les deux. C'est vrai que des fois, on se dit « Bon, ben écoute, je prends le temps avec les enfants, et ben... On va pas être vraiment avec eux parce qu'on sera à l'esprit ailleurs et occupé. On va penser à mais lui s'il me répond pas. Donc c'est aussi arriver à donner ça ce temps-là vraiment, se couper un peu et
être pleinement là.
Ouais, exactement, être pleinement là dans ce qu'on fait. Ouais. Et ça en sera que plus qualitatif, j'ai envie de dire. Ouais. Pour l'instant.
Bah, Et comment le travail il impacte selon vous justement la relation avec les kids?
Ben, moi, je dirais que pendant mes premières années d'études, ça a été beaucoup de stress que j'arrivais pas à mettre de côté parce que ben, forcément, les études, on les ramène à la maison. Quoi. Et comme il y a toujours du travail à faire, maintenant, j'essaye de travailler là-dessus et de vraiment me dire, bon, ce soir, j'ai tant de temps à la maison avec lui, et ben, je vais vraiment le consacrer à lui et laisser de côté le reste. Et voilà, ça demande un petit peu de gymnastique mentale et de voilà, de petits outils qu'on se donne à soi, mais c'est hyper important et c'est vraiment réjouissant.
Ouais, pour moi aussi c'est ça, c'est d'arriver, tu disais, de pas ramener à la maison les pollutions, à dire, qu'on peut avoir dans la journée. Ouais. C'est un peu, tu sais, quand des fois il y a des travaux où tu badges. Et ben, c'est arrivé le soir, ben, tu badges en gros, même si tu n'as pas une badgeuse, d'arriver à se trouver un petit rituel qui fait que ben, tu poses ton bleu de travail, tu poses ça, tu laisses ça au boulot. chaque jour suit sa peine. Hein. Ce qui n'a pas été fait aujourd'hui sera fait demain. Et ça arrive à se le dire, et à passer le pas et à être...
compartimenter un peu avec un petit rituel qui fait que, attention, maintenant, ça...
Ouais, voilà, ça, c'est passé.
Ouais.
On laisse de côté. Ben, pour pas que tout empiète et après, ben, ton temps que t'as avec ta famille devienne dégradé et qu'il soit un peu entremêlé avec temps pro, temps perso.
Donc, on va écouter maintenant Florent, qui, lui, a vraiment fait le choix, du coup, de stopper son activité professionnelle au moment de la grossesse de sa compagne et de l'arrivée de sa petite fille.
J'ai fait une grosse pause professionnelle qui a correspondu en partie à la période de grossesse et puis presque la première année, ou en tout cas les premiers 6 mois de Zélie. Et donc j'ai repris une activité professionnelle qu'ensuite, ça faisait partie du choix en fait, de libérer vraiment de l'espace pour accueillir un enfant. En fait, je suis très fier d'avoir libéré tout ce temps-là pour vivre la première naissance dans notre famille, quoi. Et d'avoir vraiment tout le temps pour me familiariser avec c'est quoi de vivre avec un enfant à la maison, quoi. Ce que j'en retire, moi, c'est que d'être dispo pour accueillir un enfant en tant que papa, ça me permet d'être à l'aise ensuite, quoi, parce qu'on peut se soutenir. Ouais, ça me crée une expérience comme ça de partage à la fois de partage des tâches et puis une relation très très spécifique et privilégiée, quoi. Avant d'arriver ici, j'étais un peu à bosser vraiment beaucoup, à rentrer tard, etc. Et dans ce mode-là, j'aurais pas du tout eu la disponibilité pour développer une relation privilégiée, ou en tout cas comme celle-ci. J'ai mis du temps à trouver un mix d'activités professionnelles qui a vraiment du sens pour moi. Et là, je fais l'expérience que ça contribue à mon équilibre. Que si j'avais pas ça, je serais pas présent comme je le suis en famille, parce que je serais perturbé du côté qu'est-ce que je réalise, quoi. Et quand je vois que avec mon activité professionnelle, j'arrive à réaliser des choses qui me plaisent, ça m'aide à être pleinement disponible quand je suis en famille.
Voilà, donc le témoignage de Florent sur vraiment se mettre à disposition et prendre du temps pour accueillir son enfant. Il dit quelque chose qui est très important, c'est que d'avoir eu du temps seul et du temps long avec sa petite fille, ça permet d'avoir une répartition un peu plus égalitaire des tâches après avec sa compagne, parce qu'il connaît, il sait faire, et du coup il est à l'aise, c'est ce qu'il dit, je suis à l'aise. Et ça, c'est une recommandation du rapport des 1000 jours, justement, pour plus d'égalité dans les couples hétérosexuels. Moi, j'ai lu un article qui est hyper intéressant pour sortir justement de ce schéma quantité vs qualité. Est-ce que c'est être présent à nos enfants qui va les épanouir? Est-ce que c'est simplement avoir des temps de qualité? Et elle est un peu provocatrice, mais cette maman, elle explique qu'elle a arrêté de vouloir passer des moments de qualité avec ses enfants pour 3 raisons. Elle dit déjà, on peut se mettre la pression. Et du coup, on est stressé, puis on peut être déçu si ça ne se passe pas comme on aurait voulu. Elle dit aussi, finalement, que tout est relatif, parce que ce que nous, on aura imaginé comme étant un bon moment, bah, peut-être notre enfant, il ne va pas trouver que ça ne va pas être son kiff, quoi. Et puis, elle dit aussi, finalement, plutôt que s'attacher à créer des souvenirs, elle s'attache plutôt à créer de la relation, des liens de confiance qui vont pouvoir suivre l'enfant toute leur vie et alimenter la relation parent-enfant. Je mettrai le lien de l'article dans le descriptif du podcast, mais j'ai trouvé cette approche intéressante et pertinente, en tout cas pour moi, dans ma vie de maman, quoi.
Yes, troisième partie d'émission. Flo, si vous voulez bien, on va s'attaquer à un chapitre intéressant aussi. Relations affectives et amicales. Eh ben ouais.
Ben ouais, parce qu'on a nos enfants, on a notre travail, et puis on a aussi tout le reste, quoi. Et qu'on n'a pas forcément envie de lâcher quand on est parent, et puis qui finalement, des fois, s'étiole un peu quand même. Et ben, on va laisser la parole à Charlotte et à Stéphane pour commencer sur ce thème-là.
Bien sûr. Alors, ben, comment vous prenez du temps en couple ou avec vos amis? Est-ce que cela, c'est suffisant pour vous? Est-ce que c'est qualitatif, puisqu'on reprend le terme?
Alors, moi, je vais être un peu négative là-dessus, mais le temps en couple, clairement, il en a pris un coup. Après, on n'était pas un couple qui prenait déjà beaucoup de temps juste à deux avant. Donc, c'est sûr que l'arrivée d'un enfant, ça n'a pas rangé ça du tout. Après, on prenait beaucoup de temps avec les copains avant. Là, on continue. Les relations peut-être changent un peu des fois. On va avoir tendance à être plus avec des copains qui ont déjà des enfants aussi. Et puis oui, ça va changer un petit peu le genre de choses qu'on va pouvoir faire avec eux, mais on essaye quand même de garder encore une vie sociale tant qu'on peut, quoi. c'est important.
Avant 18h.
Ouais. Avant 18h.
Stéphane, c'est pareil pour vous ?
Oui, ben, avec 4 enfants, du coup, on n'a plus beaucoup de temps disponible pour l'autre, les amis, voilà, parce que la famille, c'est aussi important de voir sa famille. Quand je parle famille, c'est au sens large, hein, frère, sœur, mère, oncle. Donc c'est revenir vers ça, bah, pour les enfants, pour peut-être pour leur montrer certaines valeurs. Après, c'est un choix de chacun. Hein. Mais à un moment donné, bah, on se rend compte, pour ce qui m'est arrivé, quoi, ce qui m'arrive, que c'est pas tout et qu'il faut aussi s'accorder du temps à soi et de revoir ses amis pour se mettre en place, pour justement pas les étouffer peut-être dans notre relation avec eux. Il y a une chose qui est importante souvent, quand on demande aux gens, on dit tu as des enfants, on dit oui j'ai des enfants, mais en fait non, c'est que il y a un mot qui change, c'est que je suis père. C'est pas comme avoir des enfants que être père. Voilà, tu parlais tout à l'heure de Florence, du qualitatif, faut pas se forcer à ça. Ouais, c'est aussi ça, c'est jouer son rôle, mais comme chacun le soit, sans être coupable de pas réussir ou pas y arriver, et s'accorder le droit à l'erreur, quoi. Et c'est ça qui va leur donner aussi des belles leçons de vie, parce que je pense qu'un parent, c'est un éducateur, c'est un accompagnateur. Voilà.
Il y a un petit peu l'inverse, nos enfants qui nous éduquent aussi, quoi.
Ouais. Ils nous rappellent un peu à dire, ouais, c'est bon, prends-toi pas trop au sérieux, sois un peu aussi un enfant, ça fait du bien, ça fait plaisir.
Et c'est ce qu'ils ont dit, on a besoin de jouer avec nos parents, quoi.
Ouais.
On va écouter donc Florent et Mélissa, qui, eux, ont une façon bien particulière de prendre soin de leur couple.
On s'offre des temps avec une personne extérieure qui nous aide à nous comprendre aux endroits où on n'arrive pas à se comprendre.
Et du coup, on a fait le choix que même si que ça aille ou que ça aille pas, de dire bah, on prend du temps et on prend soin de notre relation. C'est vraiment un espace hyper ressourçant.
Alors, c'est pas des trucs fun où on n'est pas en train d'aller s'éclater à faire du ski ou des balades ou 3 jours de vacances ou je sais pas quoi. Mais ça, pour moi, ça contribue vraiment à ce qu'on se comprenne sur le fond.
D'accord. Donc, Florent et Mélissa, ils utilisent la médiation de couple régulièrement depuis qu'ils sont ensemble pour justement faire en sorte que leur vie de couple soit plus sereine. Moi, j'avais envie aussi de vous parler d'un projet qui a été mis en place sur l'ensemble Vercors par plusieurs familles, en fait, et qui permet de se libérer du temps en soirée sans forcément devoir payer une babysitter. Ça s'appelle les marchands de sable. Et c'est un système d'entraide entre parents qui est un mode de garde d'appoint pour les soirées et s'est expérimenté depuis 2 ans. L'idée, en fait, c'est de réunir plusieurs familles, une quinzaine de familles de confiance, et de pouvoir proposer du babysitting en soirée qui est assuré gratuitement par les enfants. En fait, chaque famille, elle bénéficie au départ de 3 tickets, 3 bons pour une soirée de babysitting. Via un groupe WhatsApp, on sollicite une personne disponible. Quand celle-ci, elle vient garder les enfants, elle gagne un ticket. Et quand une famille fait venir un parent, elle paye un ticket. Et du coup, ce système, ça permet une grande flexibilité, un juste équilibre dans la répartition des babysitting. Parce que du coup, si on veut faire garder ses enfants, il faut aussi se rendre disponible pour ceux des autres. Du coup, c'est assez facile à mettre en place. Ça fait beaucoup d'interactions entre les enfants, de sympathie entre les parents. Et c'est quelque chose qui est plutôt efficient. Donc en ce moment, ça ne marche pas du tout. Mais en tout cas, c'est, voilà, si vous cherchez à faire garder vos enfants et à rencontrer du monde et puis à aussi ne pas payer une babysitter à chaque fois que vous avez envie d'aller au cinéma quand ce sera possible, ben, ça peut être une solution assez pratique à mettre en place.
Du troc de babysitter, quoi.
Du troc de babysitter.
Du troc de babysitting, c'est cool, ça.
Ouais. Et il y a le confinement aussi qui a forcément eu un gros impact sur notre vie sociale. Et on va écouter, pour finir sur cette partie, Méline, sur son vécu justement du confinement et de son temps avec ses amis.
Il se trouve que j'ai vraiment bien vécu cette période de ralentissement de vie sociale des 18 derniers mois où finalement, ça nous a contraints, forcés à réduire nos relations sociales et amicales. Et finalement, on était aussi plus posés le week-end, plus près de nos enfants. J'ai trouvé que, enfin nous, ça fait 18 mois que c'est plutôt très très serein aussi parce que il y a moins de logistique et voilà. Après, peut-être parce qu'aussi notre vie à 5, elle est suffisamment animée pour ne pas être en manque de relations amicales. Mais voilà, dans cette période de la toute petite enfance, finalement, je peux pas dire que ça m'a manqué.
D'accord. Donc là, Méline, elle revient sur le confinement, sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Stéphane et Charlotte, rapidement, vous pouvez dire quoi par rapport à confinement et vie de famille?
Ah ben moi, j'étais la plus heureuse. pardon de dire ça comme ça, parce que je sais que pour beaucoup de personnes, ça a été difficile, mais moi, j'étais trop heureuse d'avoir mon fiston et mon mec à la maison. Et là, pour le coup, on bossait tous les deux encore un peu, mais on se faisait un jour sur deux, on se répartissait les choses, et puis on a vraiment pu passer du temps ensemble à voir pousser les feuilles des arbres, et puis voilà.
Et toi, Stéphane, tu penses
? Pour nous, on a eu la chance de passer le premier confinement dans une maison avec jardin. Ça a mis dans un appartement, mais on a pu accéder à ça. C'était une chance, hein. Sinon, j'aurais un peu moins de cheveux que ce que j'ai encore sur la tête. Puis même pour eux, voilà, pour s'éclater. Donc, c'était pas plus simple, mais on est bien sortis, voilà, pour quand même avoir accès à l'extérieur.
Et vous, les enfants, vous l'avez vécu comment, cette période de confinement où vous aviez votre papa et votre maman pendant quasiment 2 mois à la maison? Puis du coup, vous les avez aussi tous les soirs parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir au ciné avec leurs copains.
Pour moi, ça... pas beaucoup changé, puisque ma mère, elle travaille dans la maison, enfin, elle fait le ménage, elle fait à manger, et mon père, il fait des travaux dehors ou dans la maison. Il n'y a que les soirs où on peut être ensemble.
D'accord. Et toi, Hamza, c'était comment le confinement, puis le fait d'avoir papa et maman tous les soirs, là, en ce moment?
Pour moi, c'était bien. Puisqu'il nous occupe tout le temps, il nous fait tout le temps plaisir. Et c'est ça qui me fait plaisir dans tout ça. Et c'est pareil que ma sœur, mais sauf que j'ai rajouté quelques mots pour... c'est tout.
Dac, merci.
Merci. Ça me lance sur cette quatrième partie d'émission où on parle du temps pour soi, justement, Flo.
Bah ouais, parce que quand on lit des choses sur la parentalité, on dit souvent l'important c'est de prendre du temps pour soi, des parents heureux c'est des enfants heureux, mais on l'a vu, le travail prend une grande partie, après on a envie de passer du temps avec ses enfants, après on a envie de passer du temps avec ses amis, dans son couple, et finalement il reste quoi? Eh bien, on va voir ça avec Stéphane et Charlotte.
avec Méline, non?
Oui, Méline, elle disait un truc avant. On va d'abord écouter Méline.
Méline, oh là là. Sur le temps pour soi.
Voilà, comment Méline, elle prend du temps pour elle?
Yes, on écoute.
Alors, le temps pour moi, il est pour l'instant assez monodisciplinaire, c'est-à-dire que c'est juste le sport. Il y a plein d'autres choses qui me feraient plaisir, mais voilà, je parlais d'absence de culpabilité, j'en ai pas forcément par rapport à ma vie professionnelle. Mais par contre, voilà, je me suis mis en tête que je voulais offrir une grande disponibilité à mes enfants. Du coup, voilà, en dehors des petits créneaux de sport, je m'accorde pas d'autres choses. Si ce n'est un week-end par an où je pars toute seule. Et ça c'est chouette, ça me fait vraiment du bien. Voilà, là vraiment dans ce moment de toute petite enfance, je trouve pas d'autres créneaux pour le moment à m'accorder.
Donc voilà, des petits moments le matin pour aller courir et commencer sa journée sereinement.
Yes, en termes de temps pour soi, vous Charlotte et Stéphane, qu'est-ce qui vous ressource, qui vous fait du bien? Est-ce que vous pouvez le faire régulièrement? Comment vous prenez du temps pour vous? Qu'est-ce que vous faites? Bon. On n'est pas trop non plus dans la vie privée, vous lâchez pas non plus, mais qu'est-ce que...
moi, pareil que Méline, du sport et puis du chant aussi. Et pour le coup, moi, je pense que je prends quand même du temps pour moi. Et en fait, c'est assez vital. Je me rends compte que si je n'ai pas ces bouffées d'oxygène-là, en fait, je ne peux pas être pleinement avec mon enfant et aussi je ne peux pas être sereine dans ma vie de... couple, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment primordial dans ma vie. Donc, je vais m'autoriser des week-ends avec des copines ou des soirées ou des stages ou des choses comme ça. Voilà. Et en fait, mon mec m'aide aussi beaucoup là-dedans en me disant, mais vas-y, fais-le, culpabilise pas, c'est important pour toi, fais-le, quoi. Et donc ça, c'est précieux.
Ouais, tu m'étonnes. Stéphane.
Ouais, bah, c'est pour moi aussi, c'est arriver à prendre ses temps sans culpabiliser, en sachant que voilà, de toute façon, ça sera mieux pour tout le monde. C'est aussi une organisation, ça. Moi, c'est souvent des temps avant le réveil des enfants. Ça va être des temps de relaxation, un peu de sophrologie, ou le soir du sport. Mais le soir du sport, vu qu'il y a les enfants à la maison, c'est comme hier soir, j'en emmène une avec moi qui fait du sport et voilà, elle est un peu ma coach, elle joue le jeu, voilà, donc ça arrive à ça, donc c'est bien jongler entre l'organisation et le temps disponible et savoir aussi accorder du temps à l'autre. Pour moi, c'est pour ma femme, voilà, lui prendre la place pour qu'elle aussi elle ait son temps, donc c'est arriver à jongler avec tout le monde.
Un partage de temps et ouais. Jongler avec les temps libres, ouais, c'est ça, c'est serein, pour rester serein.
Pour conclure cette partie, on va écouter Florent et Mélissa justement sur s'autoriser à prendre du temps pour soi.
Alors ne bouge pas, je vais te trouver ça.
Méline. C'est l'audio 9.
Très bien. Donc culpabilité d'être seule ou pas. Bim.
Ouais, moi c'est pas acquis. Prendre du temps en individuel, quoi. Aller passer un week-end avec un pote. Partir tout seul, voir un parent. Prendre une heure alors que c'est le soir et on est tous les trois à la maison. C'est pas un truc, je vais avoir le réflexe de le demander et de le poser. Ouais. Pour moi, ça correspond à un besoin et quand je le vis, ça me ressource. Ça me demande de surmonter quelque chose de l'ordre de la culpabilité, ouais, c'est clair.
Moi, je suis en chemin aussi avec ça. au début, c'était vraiment très, très dur. Et puis maintenant, je vois que j'ai aussi besoin un peu d'espace et de voilà, je vois que petit à petit, on fait chacun l'expérience de sortir du noyau familial, d'aller vivre des choses en dehors. Et je vois que ça apporte vraiment un souffle à la famille. C'est pas facile. Je culpabilise pas forcément par rapport à Zélie, mais plutôt par rapport à Florent, en me disant waouh, c'est sport, est-ce que ça va pour lui. Et en même temps, voilà, je vois qu'on est en chemin et je suis en chemin vers cet apprentissage-là. Parce qu'en ce moment, je constate vraiment que ça nous apporte vraiment des bulles d'air, quoi, que chacun puisse prendre des temps de son côté. Et j'ai bien envie de me connecter à ces bulles d'air, quoi, quand je le fais.
Tout à coup de bulles d'air, Flo.
Ouais, bouffée d'oxygène et bulles d'air. Quoi. c'est pas trop de saison avec le Covid, mais bon, c'est comme ça. Et on va finir en fait avec des envies d'évasion. Parce que des fois, on a juste envie de dire basta, plus de boulot, plus de maison, on part. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe pour Khalil. Il a des envies d'évasion, de transmission, de solidarité. Donc il est en couple, il a 3 enfants de 1 an, 3 ans et 5 ans, et il a décidé, après 25 ans de travail, d'une pause professionnelle de 5 mois avec sa famille pour voyager au Maroc.
C'est au sortir du confinement, l'envie de souffler, de voir autre chose, de faire autre chose en famille. Pendant un an et demi en formation aussi pour avoir un diplôme d'État. Donc voilà, tout ce cheminement-là a mis un an arrivé dans mon cerveau et en discuter avec mon épouse. Pour à la fois faire une pause professionnelle, parce que ça fait 25 ans moi, que je travaille avec un public, je vais dire de jeunes, personnes prostituées, personnes handicapées. Je travaille aussi au Club Med. Donc voilà, faire une pause pour moi, une pause aussi pour mon épouse, hein, qui ça fait 5 ans là, donc qui est qu'avec les enfants. On a décidé de ensemble de construire un projet, on va dire solidaire avec le Maroc. Ben oui, la solidarité, la transmission, c'est quelle valeur aussi on veut donner à nos enfants. Il y a l'idée d'être solidaire avec le pays qui nous accueille, avec des associations que j'ai pu rencontrer moi en 2017 avec un groupe de jeunes vitrolés. Il y a aussi l'idée de transmettre, c'est les origines d'où on vient, d'expliquer à nos enfants, voilà, nos origines. Mon épouse est née au Maroc, elle a sa famille au Maroc, elle a ses parents. Ses grands-parents, ça passe par la culture, ça passe par la langue, voilà, et une question d'identité aussi, savoir d'où je viens, ça aide à grandir, à se construire, voilà, dès maintenant, hein, c'est pas une question d'âge, mais je pense qu'à 5 ans, 3 ans, même à 1 an, ils sont en capacité de comprendre, de voir le monde qui nous entoure. Il y a une partie solidaire et une partie un peu plus intime, on va dire, on va rencontrer nos origines aussi. J'ai demandé, faire une rupture conventionnelle. Donc voilà, avec ce petit pécule, ça va nous permettre de construire ce projet-là au Maroc. Je ne pose pas la question de l'après, puisque je suis pas seul, encore une fois. Il y a mon épouse qui a 5 ans, qui est avec les enfants. Alors, voilà, peut-être faire une formation, de bosser. Donc ça sera l'occasion peut-être de switcher un peu les rôles. Moi, d'être à la maison et elle puisse voilà, aller chercher du travail, faire une formation, tout est ouvert. Quoi. Donc c'est bien de garder cette ouverture-là aussi pour elle et pour moi aussi. Nous, on a voulu faire les choses dans les règles, donc on a prévenu la directrice qu'on avait ce projet-là, hein, pour dire qu'au mois d'avril, on voulait partir, et donc elle a parlé à l'inspection académique, à l'éducation nationale, elle nous a posé plein de questions, vous allez, pourquoi vous partez, qu'ils nous ont demandé de les radier au moment du départ, et on a eu l'assurance de la directrice de pouvoir les réinscrire en fait dès septembre. Et après on a eu aussi côté des maîtresses qui nous ont dit qu'elles allaient nous accompagner pour pouvoir avoir leur suivi scolaire pour ces 3 mois, qui nous ont même encouragés. Nous ont dit, c'est un super projet, il faut y croire, n'ayez pas peur, enfin allez-y, foncez. Ça c'est quand même rassurant d'être soutenu.
Donc moi, ce témoignage, ça m'a donné envie de faire une émission sur voyager avec ses enfants et s'octroyer aussi du temps ailleurs. Je vois que Chacha, elle fait les pouces en l'air parce qu'elle sait ce que c'est. on pourra la réinviter. Et surtout, ce qu'on souhaite à Khalil et à sa famille, c'est qu'ils puissent partir parce que pour l'instant, les frontières, elles sont fermées. Donc là, d'ici au mois d'avril, ils croisent les doigts pour pouvoir prendre le bateau, en fait.
Mmh. Ah ouais. Voilà. En tout cas, ils ont la chance d'avoir l'assurance de la directrice de l'école qui leur dit... Enfin, je trouve que c'est cool d'entendre ça, ça rassure. Pour partir,
ouais, après, ils ont un peu galéré. Hein. Il y avait un peu des soupçons, pourquoi vous partez et tout. Donc, Khalil leur a quand même dit qu'ils n'allaient pas en Syrie, hein, que tout allait bien. Mais c'était pas si simple que ça, quoi, de comprendre. Mais finalement, les maîtresses sont aussi derrière pour assurer le programme, parce que du coup, ils ne passent pas par le CNED pour 3 mois, surtout en maternelle. Mm. Mais ouais, ils sont bien entourés, bien accompagnés pour mener à bien tout ça, quoi.
Trop bien. On arrive sur la fin, Flo, il me semble.
Ouais.
Ouais.
On est carrément dans le timing, quoi.
Oh là là là, pour une fois, ça nous arrive. Ouh, alléluia.
Et ouais, en fait, moi, quand j'ai écouté tous ces gens, je me suis vraiment dit que... Enfin, d'abord, juste, Charlotte et Stéphane, est-ce que vous voulez conclure et ajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit?
Non.
C'est tout bon?
Non, c'est bon.
D'accord. Donc moi, quand j'ai entendu tous ces témoignages, je me suis dit qu'il y a, pour les parents, en tout cas ces parents-là, c'était vraiment important d'accorder du temps à leur vie professionnelle et aussi à leur vie familiale. Moi, je veux vraiment aussi qu'on pense quand même aussi à tous les parents qui font le choix de rester quelques mois, voire quelques années, voire de longues années auprès de leurs enfants, pour justement pas avoir à concilier tout ça et peut-être avoir une vie de famille plus sereine. Hein, qu'on se dise aussi que c'est du travail de rester avec ses enfants. Alors, on en a parlé à Irénée, mais... c'est, voilà, je pense à nos mamans aussi, quand même, qui ont fait ce choix-là aussi il y a 30 ans maintenant. Donc, quand même, chapeau et big up, quoi. Et l'arrivée des enfants ne doit pas empêcher l'accomplissement professionnel, qui fait partie de ce qui nous ressource, nous épanouit. Mais en même temps, le travail, on l'entend, il doit faire de la place, celle qu'on choisit, pour être disponible aux enfants. Et après, la fatigue, la culpabilité, ça peut être aussi les pendants de cet équilibre qui reste toujours un peu fragile. Moi, je me dis que l'heure, elle est au choix, aux répartitions plus égalitaires dans les couples, quitte à diminuer de niveau de vie. Et puis, des mouvements comme Work Like a Mom, qui incitent les employeurs à réinterroger leur représentation de la parentalité en entreprise, la flexibilité des horaires, l'autonomie, le télétravail quand il est possible et souhaité, des modes de garde adaptés, et puis on l'a entendu aussi, le soutien de l'entourage, donc aussi big up aux grands-parents, et des partenaires, ça facilite la mise en place d'une organisation qui peut être équilibrée et adaptée autant aux adultes qu'aux enfants. Donc les parents, a priori, il y a des enfants qui veulent jouer avec vous.
Ça quitte, arrive.
Quitte à manger des pâtes, je crois, hein, même tous les soirs. Et puis finalement, le temps pour soi, les relations amoureuses et amicales, elles se frayent une place un petit peu au milieu de ces deux grands pôles que sont la vie de famille et la vie professionnelle. Mais on voit que c'est, on l'a dit, des bulles d'air, de l'oxygène. Et encore une fois, les partenaires, les relais familiaux, mais aussi l'entourage amical proche, c'est des atouts pour réussir à faire de la place dans tout ça. Et puis je vous rappelle que toutes les études citées, les articles ainsi que les projets présentés, ce sera indiqué dans le descriptif du podcast si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes.
Si vous souhaitez compléter ces témoignages, d'ailleurs, vous pouvez donner votre avis aussi sur l'émission ou proposer des thématiques. N'hésitez pas à nous écrire sur parentlive.fr@gmail.com. Parents avec un S, les amis. Et puis, pour suivre l'actualité, c'est sur Facebook. Sur le site parentlive.fr, guettez la sortie de la nouvelle page dédiée à la place des pères. Vous y trouverez l'exposition participative, mais aussi un espace pour témoigner et des ressources.
Ouais, on rappelle que la place des pères, c'est le fil rouge cette année de Parentlive et qu'on cherche des témoignages pour savoir comment ça se passe la paternité chez vous. Que ce soit en solo, que ce soit en hétéroparentalité ou en homoparentalité, sous toutes ces formes, les beaux-pères aussi sont amenés à être écoutés. Donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve le 14 avril pour une émission autour des discriminations quand elles sont vécues par les enfants. Comment on réagit, comment on agit en tant que parent face aux discriminations dont sont victimes nos enfants? On aura plein d'invités pour répondre à cette question.
Avec grand plaisir, comme toujours. Rendez-vous donc le 14 avril. Merci beaucoup à Stéphane et Charlotte. Merci aussi à Narges et Hamza d'avoir été présents avec nous et avec le sourire, bien sûr, ça fait plaisir. Merci.
Sourire masqué.
Ah, sourire masqué, mais ça se voit sur le coin des yeux. Merci beaucoup, Flo, aussi, pour cette émission.
Bye, Greg.
Rendez-vous le 14 avril. Ciao, ciao tout le monde.